Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, ce plaidoyer du gouverneur de l'Ituri pour une riposte contre Ebola plus rapide, mieux outillée et adaptée aux réalités de cette province. Objectif, éviter une catastrophe, estime Johnny Luboya. À Mwenga et Chabunda au Sud Kivu, la décision du ministre des Mines suspendant les activités minières pour 3 mois est une pilule amère. Au sein des communautés locales, on a du mal à l'avaler justement. On s'inquiète car ici on vit essentiellement de l'exploitation artisanale. Comme invité, Blaise Bilembo, chargé de la réduction des risques des catastrophes à l'ONG UPD. Cette structure tente de trouver des solutions aux inondations récurrentes de plusieurs quartiers de Kindu par les eaux du fleuve. Bonjour et bienvenue à cette édition. En Ituri, le gouverneur militaire estime que face aux défis sécuritaires, une riposte rapide et adéquate contre Ebola est plus urgente que jamais pour éviter une catastrophe. Cette déclaration est intervenue hier lundi alors que le nombre de contaminations et de décès liés à la maladie continue d'augmenter dans les 7 zones de santé de cette province déjà touchée par l'épidémie. Le général Johnny Luboya Kachama souligne la nécessité de renforcer les moyens logistiques afin de contenir la propagation du virus. Il insiste aussi sur l'importance de déployer sur le terrain du personnel qualifié pour assurer une prise en charge efficace des patients. Il a également exprimé l'espoir d'une réouverture prochaine de l'aéroport de Bunia, indispensable pour l'acheminement du matériel médical. Suivez un extrait des propos du gouverneur Johnny Kachama, choisi par Martial Kizabiamungo.
Le contexte est que aujourd'hui, l'Ituri subit des violences avec la présence des groupes armés, avec comme conséquence plus ou moins 61 sites de déplacés qui contiennent 970 000 déplacés. Et ces déplacés, parce qu'ils sont vulnérables, ils deviennent davantage vulnérables à cause de cette épidémie et de cette infodémie. Le premier défi, comme c'est une autre guerre, et comme dans toute guerre, vous savez, c'est d'abord l'installation. Et cette installation, elle va du personnel qualifié au matériel et aux intrants. Donc, aujourd'hui, en Ituri, nous attendons que on installe ce personnel le plus tôt possible. Vous savez que les aéroports ont été fermés, mais hier, nous avons eu l'assurance que peut-être d'ici là, ces aéroports seront rouverts pour faciliter cette installation.
Le gouverneur de l'Ituri. La province du Maniema, elle n'a jamais enregistré de cas d'Ebola, mais les autorités restent en alerte. Le week-end dernier, les responsables des services postés au principal poste d'entrée de la province ont été appelés à renforcer leur vigilance. Lors d'une réunion avec l'autorité provinciale, il leur a été demandé de surveiller de près les mouvements des populations. Le Maniema étant situé au centre du pays, en plus, l'entretien des échanges réguliers avec des provinces voisines déjà touchées par l'épidémie. À ce sujet, on écoute le ministre provincial de la Santé, Dr Alexis Kingombe, au micro de Florence Kizalunga.
Nous, la province de Maniema, nous sommes vraiment très préoccupés par cette nouvelle parce que les sites Kivu et le Nord Kivu sont déjà en épidémie. Étant donné qu'il y a les mouvements de population entre notre province, il y a le trafic qui s'est fait entre le Maniema, le Nord et le site Kivu, nous sommes vraiment très préoccupés. C'est la raison pour laquelle nous avons invité toutes les parties prenantes, notamment le maire de la ville, les trois bourgmestres, les chefs de quartier, les commandants de la RVA, les chefs de la DGM, les commissaires fluvial. Nous les avons invités pour les mettre et aussi en alerte afin de surveiller les mouvements des populations parce que ce sont eux qui sont dans les portes d'entrée de la province afin d'être vigilants. Comme vous le savez, la province du Maniema partage les mouvements de la population. Il y a les gens qui font les trafics dans le nord et dans le sud Kivu. C'est pourquoi nous les avons dit d'être en alerte afin d'éviter qu'il n'y ait pas aussi des cas à enregistrer ici chez nous au Maniema. Entre temps, nous demandons à la population d'observer strictement les mesures barrières. Cela peut aider la province de ne pas enregistrer les cas de virus d'Ebola.
Et face à l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, la province du Kwilu renforce ses mesures préventives pour éviter toute propagation de la maladie. 5 laboratoires de haut niveau ont été installés dans plusieurs zones stratégiques de la province. Objectif, améliorer la capacité de détection et de surveillance. Elisette Kota Achivueta nous en donne les détails.
Selon le chef des divisions provinciales de la santé du Kwilu, le docteur Jean-Paul Matela, cette stratégie vise à détecter rapidement d'éventuels cas suspects et à protéger la population contre cette maladie virale hautement contagieuse.
Dans notre province, nous avons positionné 5 laboratoires de haut niveau à Bandundu, à Mosango, à Kikwit, à Idiofa, à Gungu, pour que quand on a des cas comme ça dans des zones de santé proches de ces laboratoires-là, on envoie les échantillons et on détecte vite la maladie.
Docteur Jean-Paul Matela appelle également les habitants à respecter strictement les gestes barrières.
Pour barrer la route à la contamination, donc ne pas toucher, limiter de plus en plus le contact entre les humains. Devant la maison, mettez les points d'eau courantes pour que les gens se lavent les mains avec du savon. Dans toutes nos maisons, donnez-vous la peine d'acheter les solutions hydroalcooliques, les avoir toujours, à tout moment, après avoir entré en contact avec d'autres personnes. Et en cas de signe, il faut orienter la personne vers un établissement de soins.
Les autorités sanitaires assurent que toutes les équipes médicales restent mobilisées pour renforcer la surveillance épidémiologique.
Moins de 5 jours après la décision du ministre des Mines de suspendre pour 3 mois les activités minières dans les territoires de Mwinga et Shabunda au Sud Kivu, des voix commencent à s'élever au sein des communautés locales. Toutes expriment leurs inquiétudes face aux conséquences économiques que cet arrêté pourrait entraîner sur le quotidien des populations vivant de l'exploitation minière artisanale et des activités connexes. Qu'en est-il, Jean Kassami?
Tout en reconnaissant la nécessité de l'arrêté du ministre des Mines du 22 mai 2026 annonçant la suspension des activités minières illicites dans les territoires de Mwinga et Shabunda au sud Kivu, les forces vives des entités concernées alertent. D'après elles, cette décision risque malheureusement de pénaliser les creuseurs artisanaux en majorité des jeunes. Bienfait Fazili Mulonda, porte-parole des associations et mouvements citoyens de la chefferie de Wamuzimu à Mwinga.
Notre population est déjà victime de la hausse des prix des produits de première nécessité. Ainsi, au lieu d'une suspension générale qui indistinctement frappe toute une population déjà confrontée à des difficultés, des barrières illégales, l'impraticabilité de la route nationale numéro 2, nous appelons les autorités à revoir les décisions pour le bien-être de notre population.
L'arrêté du ministre Louis Kabamba Watum stipule que le produit des activités minières dans Mwinga et Shabunda contribue au financement des projets de déstabilisation des institutions de la République. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Approvisionnement et distribution des produits pétroliers dans le Lualaba. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, s'engage à renforcer les services provinciaux de son ministère. C'est dans le but de les doter de meilleurs moyens et de les impliquer davantage dans la mise en œuvre des réformes initiées par le gouvernement. Parmi ces innovations figurent les outils numériques Talo, destinés au suivi des prix, et Loba, dédié à la gestion des plaintes des consommateurs. Le ministre a fait cette déclaration lundi lors d'une séance du travail avec la gouverneure de province Fifi Masuka. C'est en marge de sa mission officielle à Kolwezi dans le cadre de la 7e édition du Katanga Business Meeting. Daniel Mukoko s'exprime à ce sujet au micro de Blaise Shindani Kambala.
Nous avons voulu, Madame la gouverneure et moi-même, échanger autour des questions économiques sur deux grands sujets. Premièrement, c'est le fonctionnement de la division provinciale de l'économie nationale dans la province du Lualaba, afin qu'elle collabore mieux avec le gouvernement provincial et qu'elle donne au gouvernement provincial l'appui technique nécessaire par rapport aux différentes réformes que nous initions au niveau national, mais qui doivent être mises en œuvre au niveau de la province. Le deuxième grand sujet, c'est un certain nombre de préoccupations soulevées par Madame la gouverneure et qui concernent pour la plupart mon secteur, celui de l'économie nationale, qu'il s'agisse de l'approvisionnement de la province en produits pétroliers ou encore de certains prélèvements qui peuvent être intégrés dans la structure de prix des produits pétroliers et qui peuvent servir au financement de certains projets d'infrastructure dans la province. De la même manière que Madame la gouverneure a bien voulu faire le plaidoyer que je vais porter à Kinshasa sur notamment les questions liées au climat des affaires dans la province.
Parlons de ce cadre en sécurité au Nord Kivu. Trois éléments de la police et circulation routière, PCR, ainsi qu'un civil, ont été tués lundi par des hommes armés jusque-là non identifiés. Cela s'est passé à Kirima, dans le territoire de Lubero. Ce point de contrôle situé entre les groupements de Mouigné et Mouhola se trouve à environ 32 km à l'ouest de la ville de Butembo. Les assaillants ont également emporté les armes des policiers tués. Des détails à ce sujet avec Martial Papimoukeba.
L'attaque s'est produite ce lundi vers midi au poste de contrôle de la police de circulation routière de Kirima. Selon des sources locales, des hommes armés ont ouvert le feu sur les policiers en service, tuant sur place trois éléments de la PCR. Alertés par les détonations, les forces de défense et de sécurité sont intervenues et ont échangé des tirs avec les assaillants qui ont finalement réussi à prendre la fuite avec quatre armes AK-47. Un civil touché par balle a succombé à ses blessures. Le coordonnateur du réseau pour les droits de l'homme Rido, Muhindo Asivinwa, appelle les autorités à diligenter des enquêtes sérieuses et invite la population à collaborer avec les services de sécurité pour retrouver les auteurs présumés.
Les Rido regrette cet incident malheureux, appelle les autorités à vite diligenter des enquêtes sérieuses afin de dénicher les auteurs. Il est déféré devant un tribunal combattant. Les Rido appelle également toute personne ayant des informations sur les présumés auteurs de cet acte criminel à collaborer avec les services.
Selon des sources sécuritaires, des présumés auteurs ont déjà été arrêtés. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Dans l'enseignement, certains parents d'élèves finalistes du secondaire du Kasaï central dénoncent le paiement illégal de points de E13 dans certaines écoles. Ces points qui viennent de l'école permettent de comparer le niveau de l'élève à l'examen d'état et à l'école. Selon leur témoignage, des chefs d'établissement exigeraient entre 20 000 et 50 000 francs congolais aux finalistes pour l'obtention de ces points pourtant liés au travail scolaire des élèves. Ils appellent les autorités scolaires à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette pratique. C'est un reportage de André Katende Ngalamulume.
Plusieurs parents que nous avons rencontrés se demandent pourquoi ils doivent payer cet argent alors que les élèves sont censés travailler pour obtenir ces points. Émile Kabunjiki, l'un des parents interrogés, estime que cette pratique compromet l'éducation des enfants.
Les élèves à l'école doivent travailler pour gagner les points. Mon enfant doit présenter les examens d'état, mais on me réclame la somme de 30 000 francs afin qu'on puisse remettre le point de E13. L'éducation ne prend pas sa place. Demain, le lendemain, on aura quel type de gens.
Au niveau des autorités éducatives provinciales, l'inspecteur principal provincial intérimaire condamne ces actes. Paulin Bouilly invite les parents ainsi que les autres partenaires de l'éducation à dénoncer tout chef d'établissement qui exige de l'argent pour les E13 afin qu'ils soient sanctionnés.
C'est une pratique honteuse. Et j'invite les parents, la société civile, tous les partenaires éducatifs à dénoncer ce genre de pratiques. Tout celui qui sera dénoncé se verra éjecté de son fauteuil de chef d'établissement.
De son côté, Oscar Lolé, qui est président du syndicat des enseignants du Congo, Sioko Kasaï Central, appelle les préfets au respect de l'éthique et de la déontologie de leur profession. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Okapi.
À Kinshasa, les câbles électriques exposés et mal entretenus représente une menace croissante pour la population. Dans plusieurs communes, en effet, des fils pendent dangereusement au-dessus des avenues, des surcroît au-dessus des têtes des gens, longent les habitations et touchent parfois le sol, ce qui expose habitants et passants à des risques d'électrocution. Face à cette situation préoccupante, les riverains lancent un appel d'urgence aux autorités compétentes afin d'intervenir avant qu'un nouveau drame ne survienne. Reportage Magloire Landou.
Dans les quartiers Bassoko de la commune de Ngaliema, des câbles électriques mal fixés, parfois très proches des habitations, suscitent une vive inquiétude au sein de la population. Une situation qui menace non seulement les riverains, mais aussi les commerçants et vendeurs installés le long de route.
Le problème vient du fait que le câble électrique de la SNL passe tout près des habitations. C'est un grand danger pour les passants. Les véhicules responsables de la SNL doivent chercher une solution pour remettre de l'ordre dans ces câbles.
Je vends en dessous des câbles électriques, c'est risqué, mais si Dieu me bénit, je quitterai cet endroit. Pour le moment, je continue malgré tous les dangers et les risques.
Face à ces préoccupations, la Société nationale d'électricité, par la voix de son chargé de communication, M. Mbombo, évoque plusieurs facteurs à l'origine de cette situation. Selon lui, certains incidents sont liés aux branchements illégaux et au manque de collaboration des habitants lors des opérations de sécurisation.
Nous plaçons le réseau en respectant la procédure, mais la population est caractérisée par l'incivisme à outrance. Ils se raccordent, ils touchent au réseau quand ils veulent, ils utilisent des agents non qualifiés et quand ça se complique, ils retournent à la semaine.
Malgré ces explications, la population continue d'appeler à des mesures urgentes pour sécuriser les installations et prévenir d'éventuels drames.
Actualité internationale.
Au Sénégal, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la recomposition des institutions au sommet de l'État. L'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, limogé vendredi dernier, a été élu aujourd'hui mardi à Dakar, président de l'Assemblée nationale avec tenu 132 voix sur 133 exprimées et une abstention. Ce scrutin s'est tenu en l'absence d'une trentaine de députés de l'opposition qui contestent la légalité de sa réintégration en tant que parlementaire. Ousmane Sonko a immédiatement pris ses fonctions.
L'invité.
Face aux inondations fluviales récurrentes dans la ville de Kindu, l'ONG Union pour la promotion, la défense des droits humains et environnement UPD a récemment réuni plusieurs parties prenantes au chef-lieu du Maniema. C'est dans le but d'analyser la situation et d'élaborer une note de plaidoyer sur cette problématique. Pour en parler, nous recevons Blaise Bilimbo, chargé de la réduction des risques des catastrophes au sein de cette structure. Il répond aux questions de Florence Kizalunga.
Bilimbo Malonga Blaise, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Que retenir de cette analyse que vous venez de faire par rapport à cette problématique des inondations fluviales dans la ville de Kindu?
Merci. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse nous a fait découvrir d'abord la situation de Kindu, l'historique nous a montré qu'il y a eu l'inondation en 1960, à partir de 97, que nous avons commencé à voir les manifestations des inondations, qui est d'abord fluviale. Cela a commencé à s'aggraver à partir de 2004, 2005, mais à partir de 2016, 2017, 2020, que ça a commencé à être année par année. Donc, ce qu'il faut retenir, que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à la fois la cause de toutes ces inondations-là. Nous avons découvert, par exemple, qu'il y a d'abord la mauvaise urbanisation, l'urbanisation qui n'est pas planifié et que cela aggrave la situation. Il y a aussi la mauvaise gestion des ordures qui est aussi l'une des causes. Il y a des ordures qui sont jetées, il n'y a pas d'entretien, il y a toute une série de problèmes que nous avons retenus sur ça.
Votre souci est d'apporter une réponse à cette crise. À l'issue de votre atelier, vous avez pu élaborer une note de plaidoyer que vous avez adressée à tous les niveaux. Peut-on savoir ce qui est contenu dans cette note de plaidoyer?
Oui, nous avons le souci de vraiment de répondre à tous ces problèmes, parce que vous savez, les inondations, il y a des impacts sociaux qui sont accompagnés. Il y a des pertes des maisons, il y a des maladies, et que ça vient, comme la population dit, ça devient de l'année à l'année. Donc, toutes les années, maintenant, ça devient un problème récurrent. Maintenant, la note a été rédigée, et ce qui est contenu dans la note, d'abord, nous avons montré les contextes. La participation a montré les contextes de Kindu, comment la ville, elle est traversée par les fleuves Congo, et comment elle est aujourd'hui exposée par les inondations. Il y a aussi les demandes. D'abord, il y a eu des demandes qui sont en urgence. C'est d'abord trouver une solution à la population qui est dans les zones inondables. Que l'État ou le gouvernement puisse trouver une solution durable, parce qu'il y a des ceux-là qui disent que non, nous voudrions même quitter ici, mais on n'a pas où aller. Donc, c'était une demande. Et cela aussi est accompagné par, dans les demandes, la gestion durable des déchets, des ordures. Il y a les inondations pluviales qui aussi est un problème, parce que parfois, quand il pleut, les caniveaux sont bouchés, les rivières sont remplis par des déchets. Si les déchets ne sont pas bien gérés, ça cause aussi des problèmes. Et dans cette note, il y a des recommandations. On a recommandé à des différents niveaux, au gouvernement, on a recommandé de trouver par exemple un nouvel arrêté, les nouveaux lotissements dans toutes les trois communes, parce que c'est toutes les trois communes qui sont touchées. Il faut qu'il y ait des lotissements pour cette communauté-là, qui soient relogés là-bas, parce qu'ils sont dans des zones à risque. Il faudrait aussi, parce qu'il y a eu des cacophonies, il y a des confusions entre les services cadastraux en général, donc cadastre, urbanisme et titres immobiliers, avec la municipalité, donc la ville. Et par moments, ils sont dans des confusions. On a recommandé qu'il y ait quand même qu'on puisse séparer les mandats des chefs de quartier, les mandats des cadastres, on ne sait pas qui, parce qu'on donne illégalement les terres. Celui qui n'en a pas la compétence, il peut donner la terre, ne sachant même pas les dangers que cette personne peut recourir là demain.
Si vous avouez qu'il y a certains qui sont fatigués par cette situation, mais par contre, il y a d'autres qui persistent toujours, même s'il y a inondation, ils sont assistés et ils retombent encore dans cette même situation. Alors, il y a dans votre projet, est-ce que vous avez aussi le temps de sensibiliser la communauté, de montrer les dangers qui présentent ou les dangers qui sont en train de vivre tous les jours?
Oui, en ce moment ici, il y a des équipes qui sont sur terrain. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté et beaucoup, même parfois, bon, je me dis, il y a des gens qui perdent beaucoup de choses, des maisons, alors que l'assistance ne vient pas pour construire la maison. Donc, c'est une question de sensibiliser. On a compris aussi, il y a parfois l'ignorance de la part de la communauté, de la part des autorités parfois. Donc, nous sensibilisons. Beaucoup sont déjà d'accord. Ils disent que non, nous attendons seulement les décisions du gouvernement. On sera d'accord d'aller dans les lieux sécurisés.
Que peut attendre la population à l'issue de votre projet ici par rapport à cette question des inondations fluviales dans la ville de Kindu?
Les communautés doivent attendre que leurs doléances seront présentées à toutes les couches qui sont intéressées et nous espérons qu'une réponse sera venue favorablement à toutes ces doléances-là.
Bilimbo Malonga Blaise, merci.
Merci beaucoup.
Voilà Blaise Bilimbo, chargé de la réduction des risques des catastrophes au sein de l'ONG Union pour la promotion et la défense des droits humains et environnement UPD. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rong et Elise Chikota Chivita avec du Denis Nyangasa, la technique et Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.